Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 12 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, on va recevoir en deuxième partie d'émission Olivier Benloulou, propriétaire d'une prestigieuse collection de voitures dont vous connaissez probablement déjà le nom. Il est arrivé un petit incident un peu plus tôt cette semaine avec sa Alpha Queen, qui est une Nissan GT-R de plus de 3000 chevaux. Alors, on va revenir sur cet incident-là. Mais là, on va commencer avec l'annulation d'un autre salon de l'auto, en fait le report du salon de l'auto de Los Angeles.
Oui, effectivement. Donc, salon de l'auto de Los Angeles qui se tient traditionnellement à la fin, à l'automne, donc au mois de novembre. Et là, comme tous les salons ont été annulés, ou pratiquement depuis le début de l'année, évidemment en raison de la COVID, là, on se demandait si ce salon allait avoir lieu. Eh bien, les organisateurs ont confirmé son report à mai 2021. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'édition 2020 est annulée? Oui, parce que ça va être une édition 2021 finalement. Et ça va être intéressant.
C'est quand même assez particulier parce que Détroit est tout de suite après.
Détroit et New York, hein? Tous ces trois salons-là vont arriver en même temps au printemps. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer.
Parce que si on se situe, New York est à la fin avril.
En fait, on a New York du 2 au 11 avril. On va avoir Los Angeles du 21 au 31 mai, puis Détroit du 11 au 26 juin. Alors, avis aux organisateurs qui veulent en faire un en juillet, les dates sont libres.
C'est
à peu près ça, là.
Puis je pense qu'on peut, prendre quelques secondes pour revenir sur les possibilités d'un salon à Montréal. Ouais. Semble-t-il que Montréal aura lieu?
Les taux se resserrent tranquillement.
Ouais.
Je te confirme que j'ai communiqué avec les gens du Salon de l'Auto de Montréal et on m'a dit que d'ici la semaine prochaine, on nous reviendra avec une confirmation de la tenue ou non de l'événement, parce qu'il n'y a rien qui a été décidé encore.
Mais on travaille sur différentes avenues, on travaille très fort. On dit que ça ne serait pas un salon automobile tel qu'on le connaît habituellement,
Est-ce que ça serait un salon avec qui miserait sur le virtuel, par exemple? Je ne sais pas.
Il y a beaucoup de questions en suspens, mais...
Est-ce que les constructeurs sont motivés à louer des espaces énormes et dépenser des gros sous pour être présent?
Moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est que le Palais des Congrès devra mettre de l'eau dans son vin et on sait que c'est pas dans leurs habitudes.
Non,
alors, on va voir comment ça va se passer, mais sous quelle forme ça prendra ce salon-là aura lieu. J'ai bien hâte d'en savoir davantage. En attendant, Québec, on sait pas non plus.
Oui, mais Québec, c'est un petit peu plus tard. Hein? Donc, c'est au mois de mars. Là, Montréal, c'est au mois de janvier. Ils ont été chanceux. Ils ont eu droit à l'édition 2020, ce qui n'a pas été le cas pour la plupart des autres grands salons. Mais là, pour 2021, c'est un peu moins certain.
J'écrivais il y a quelques semaines pour le Guide de l'Auto 2021 qui sortira d'ici quoi, 11 jours maintenant?
Oui, effectivement, le 23 octobre.
C'est la date
prévue.
J'écrivais mon article sur le Mazda CX-30 dans le livre en mentionnant la très forte possibilité de l'arrivée d'un moteur turbo dans le CX-30 pour 2021. Et les rumeurs allaient bon train à ce niveau-là. On a aussi confirmé l'arrivée d'une version turbo de la Mazda 3. Alors, c'est juste logique que le CX-30 ait droit à son moteur turbo, mais Mazda a refusé de le confirmer. Alors, moi, j'ai osé le confirmer dans le Guide de l'Auto 2021 en me disant, c'est écrit dans le ciel que ça arrive. Et on apprend aujourd'hui que le CX-30 à moteur turbo sera offert au Mexique.
Oui, exactement. Donc, c'est été confirmé pour le marché mexicain, c'est-à-dire, mais c'est pas une grande surprise, absolument pas. On l'avait dans le CX-9, on l'a eu dans la Mazda 6, CX-5, Mazda 3. On n'a pas 50 moteurs là, chez Mazda, donc si on a un bon moteur, ben on l'applique à toute la gamme. Et c'est une combinaison tout à fait logique, là. Le moteur à 4 cylindres, 2,5 litres, turbo-compressé, c'est très, très logique de combiner ça avec le CX-30.
Ouais, voilà.
Donc, on attend...
Et de toute façon, il faut comprendre qu'un CX-30, c'est une Mazda 3 avec une autre robe.
Exactement.
Comme la Crosstrek est une Impreza avec une robe un peu plus surélevée, c'est exactement le même principe. Donc, il n'y a aucune adaptation mécanique à faire par rapport à la Mazda 3 qui l'offre déjà, là, en fait. Donc, attendez-vous à ce que ça débarque très, très, très prochainement sur le marché canadien. Genesis, maintenant, bon, on sait qu'on a dévoilé...
Un petit mot, parce que ben, on a dévoilé un rafraîchissement là, de mi-mandat. Elle reprend les airs de la nouvelle génération des produits Genesis. Donc, les quadruples phares à l'avant. C'est assez spécial. Ouais. Là, je m'y habitue pas encore. Je peux pas dire que c'est laid, par exemple, mais c'est...
Moi, je trouve ça très, très, très réussi sur le plan de... sur l'impact visuel, je trouve que c'est très réussi.
Franchement,
mais est-ce
on
que
peut pas
Genesis
dire
vend des voitures?
Ah, mais ça, c'est une autre question.
Parce que là, on a, dans le fond, la G70.
La G80 et la G90. Ça fait beaucoup de voitures, alors que les gens n'achètent plus de voitures,
et justement. Et le GV80 qui arrive.
Exactement. Et moi, j'ai contacté les gens de Genesis pour savoir, parce que dans le communiqué, on nous mentionnait qu'elle allait être livrée de série avec le système à quatre roues motrices, ce qui est le cas actuellement, mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'on va garder une version à roues motrices arrière et combinée à une boîte manuelle? Et on nous a dit qu'on ne nous confirmait absolument rien pour le moment. Donc, mais j'ai bien peur quand même que cette combinaison-là disparaisse, parce qu'il y avait des rumeurs assez intenses à l'effet que le moteur de base actuel, qui est un 4 cylindres 2 litres turbo, soit remplacé par un autre 4 cylindres turbo, mais de 2,5 litres, un petit peu plus puissant. Ouais. Donc, il y a bien des chances que la boîte manuelle parte, elle aussi, avec l'eau du bain.
Moi, c'est sûr que si j'étais un concessionnaire Genesis, je commanderais une demi-douzaine de G70 à boîte manuelle, sachant que ça va sortir
un
comme grand ça.
Intérieur bleu, là, ça va être parfait.
En fait, on connaît un peu l'histoire et la raison pour laquelle la boîte manuelle s'est retrouvée dans la Genesis, c'est que l'ancien planificateur de produits qu'on connaît, qui aujourd'hui travaille chez Volkswagen...
Qui est un vrai amateur de conduite.
Ouais, et lui avait décidé...
Je sais pas comment il a réussi ce tour de force-là, en fait.
Mais lui avait réussi à convaincre les gens de Genesis qu'il y avait un marché pour cette boîte-là au Canada. Il y a des acheteurs qui étaient intéressés à ça. Bon, évidemment, le plan d'affaires de Genesis étant ce qu'il est, la distribution a été assez limitée.
Ouais.
Mais si vous avez aujourd'hui entre les mains une Genesis propulsée à boîte manuelle, je peux vous dire que vous avez un objet assez rare entre les mains.
Absolument.
Et non, je ne m'attends pas à ce que ça revienne dans les prochaines années.
Non.
Donc, Nissan qui dévoilait cette semaine avoir vendu, en fait, sa 500 millième Nissan Leaf. Une voiture qui commence à battre de l'aile dans le marché des voitures électriques parce que...
Même si on a une version plus avec une autonomie qui a été bonifiée, finalement, au cours des dernières années...
On lui préfère de beaucoup la Chevrolet Bolt et d'autres produits comme le Kona, par exemple, sur le marché de l'électrique en ce moment.
Donc, c'est ça, 500 millième unité. C'est en Angleterre que ça s'est déroulé. Modèle qui est sur le marché depuis 2011. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a eu le temps d'en produire autant.
Ça a été la première voiture électrique sérieuse commercialisée ici parce que, oui, la Mitsubishi i-MiEV est arrivée peut-être quelques mois avant, mais on s'entend que ça n'a pas duré longtemps.
Et c'est une cliente norvégienne qui aura droit à cette voiture qui marque un point tournant quand même dans l'histoire de la voiture.
On continue avec Nissan. Germain, tu as essayé cette semaine la Sentra.
Oui, effectivement.
Nouvelle berline compacte qui est arrivée chez Nissan et c'est un produit qui semble se vendre quand même assez bien. On commence à en voir sur les routes et dans un marché qui n'est pas si évident que ça. Alors, Nissan qui a fait, je pense, du bon travail à ce niveau-là.
Ben écoute, si je ne me trompe pas, tu avais eu la chance de la conduire toi aussi dans les mois précédents. Donc,
moi, je l'ai conduit en fait en Californie à l'époque où on avait le droit d'y aller.
Ah oui, jadis! Là,
oui, c'est ça. Dans une autre vie.
Dans une autre vie, totalement. Ouais. Donc oui, effectivement, j'ai été quand même impressionné en conduisant la Sentra parce que ça fait très, très bien le travail.
On a surtout l'impression, en fait, que on est deux générations plus tard.
Oui.
Il y a tellement une immense différence.
En bon français, excusez-moi, mais fast forward, là.
Oui.
Et franchement, c'est quelque chose. Elle est premièrement beaucoup plus belle. Donc, déjà là, ça aide. Mais même au plan de la conduite, ça me semble quand même un petit peu plus raffiné. J'ai hâte de voir de quelle manière va évoluer la boîte CVT parce qu'on n'a pas connu que du succès avec cette transmission-là par le passé. Je parle même pas de la boîte manuelle parce que ça, personne n'en achètera. Mais
Mais il y a des rumeurs, faut quand même le mentionner.
Oui.
Il y a des
oui.
rumeurs, parce que là, pour l'instant,
mais il y a une différence entre l'offrir et en vendre.
Voilà. Mais pour l'instant, on offre la boîte manuelle que sur une version oui. de base.
Et c'est absolument pas intéressant.
Dépourvu de sièges chauffants, oui. dépourvu d'Apple CarPlay, dépourvu de ce que les gens veulent. Bref, donc oui. on fait tout pour ne pas en vendre. Oui. Mais là, je pense qu'il
J'ai une copine qui a réussi à en trouver une et à en acheter une, d'ailleurs.
Quand même. Mais là, on risque d'avoir, ouais. On risque d'avoir une version à boîte manuelle qui va être intéressante pour ceux qui veulent se procurer ce genre de transmission-là.
Oui, mais en tout cas, pour le moment, c'est la version grand public continue d'avoir ouais. la boîte CVT. Donc, c'est le bémol principal avec cette voiture-là. Sinon, ben, comme par le passé, son coffre, il est totalement énorme, ce qui est quand même un atout intéressant. Et quand j'avais conduit la Mazda 3, j'étais arrivé à peu près au même constat. Les compacts ne sont plus les compacts
d'hier. Ah, bon, on est dans l'intermédiaire, là.
Absolument. Donc, oui, elles sont grosses, mais elles ont aussi tout l'équipement qu'on veut si on prend pas, justement, là, la version de base. Ouais. Donc, on prend une version milieu de gamme et on a absolument tout ce qu'on veut. Et j'en arrive à la conclusion que pour une famille de deux adultes avec deux enfants, ça fait amplement le travail. On n'a pas besoin d'aller vers un VUS parce que combien on voit de familles avec deux enfants aller se chercher, par exemple, un Santa Fe? Alors, c'est absolument pas nécessaire.
Nissan aimait mieux que tu dises un Murano.
Murano, peu importe, ils sont tous ouais. pareils. Mais tout ça pour dire qu'une famille avec deux enfants, même
il y a de l'espace, il y a de la polyvalence. On l'a étudié, cette voiture-là, pour qu'elle soit pratique.
Et oui, c'est une voiture traction, mais avec des bons pneus d'hiver, là, on a été combien d'années à conduire des voitures traction et même propulsion l'hiver? Donc oui, c'est un petit plus, là, 4 roues motrices, mais non, c'est absolument pas nécessaire. Avec une berline compacte comme la Sentra, vous allez sauver des centaines de dollars par mois par rapport à un VUS qui est beaucoup plus gros. Ça va coûter moins cher d'essence parce que j'ai fait quasiment 600 km avec la voiture. Exactement. Là, ça frôlait presque le 7 parce que j'ai fait un peu de ville, mais ça demeure très, très, très raisonnable. Absolument. Donc, ça devrait être une voiture considérée par davantage de consommateurs qui ne s'intéressent absolument plus à ce segment-là de la voiture compacte.
D'autant plus, Germain, que le marché se resserre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concurrence américaine. Ouais. Il y a plusieurs constructeurs qui ont abandonné le segment.
Ouais.
Nissan était presque dans la cave du classement avec la Sentra, parce que cette voiture-là, bon, on avait le seul élément intéressant de la précédente Sentra, hormis sa consommation d'essence très faible, c'était le fait que, oui, elle offrait un peu d'espace, mais surtout qu'elle était pas chère.
Mais c'est encore le cas aussi, Et des paiements en location, on demeure là quand même beaucoup moins cher qu'une Forte de plusieurs dizaines de dollars par mois. Bon, la garantie couvrira pas les 48 mois de location, mais toujours est-il que son prix demeure très, très, très agressif.
Absolument.
Enfin, tout ça pour dire que
le prix est attrayant, le produit est sérieux. Oui. Je pense qu'on arrive au bon moment avec cette voiture-là.
Le bémol, c'est la CVT à long terme.
Ben voilà, sauf qu'on n'est pas la seule, entreprise à l'offrir.
Voilà.
Et va falloir aussi comprendre que prochainement arrivera une nouvelle génération de Civic, la nouvelle Elantra également.
Mais il y a la Versa aussi qui va débarquer chez Nissan, va peut-être un peu faire un chien dans un jeu de quilles, quelque chose du genre. Donc voilà. De ton côté,
Germain qui confirme n'avoir jamais joué aux quilles.
Ça m'arrive très rarement.
C'est ça. Moi, de mon côté,
Camry. TRD, si je ne me trompe pas.
Ben, pour vous mettre dans le contexte, alors, j'ai parcouru tout près de 3000 km au volant d'une Lincoln Continental dans la dernière semaine.
Ouais.
Je me suis déplacé du côté des îles de la Madeleine avec cette voiture-là en tout confort. Et je reviens sur les qualités de la Continental parce que j'ai adoré cette voiture-là.
Ouais.
Il y a un mode sport sur la Continental qui permet de raffermir la suspension, la direction et d'avoir une conduite un peu plus acéré, mais dans 80% du temps, je mettais le mode régulier, le mode confort pour profiter de la souplesse de la suspension et du siège massant que j'ai utilisé à outrance. J'en ai solidement abusé.
D'ailleurs, je me demandais qui utilisait ça, j'ai la réponse.
Moi, exactement. Et là, je stationne la Lincoln et je prends le volant de la Toyota Camry TRD.
Donc, premièrement, oui, ça existe.
Alors, Toyota a décidé de repousser les limites de la performance avec une Camry pour justifier d'abord le fait qu'on conserve un moteur V6 de 3,5 litres, de 300 chevaux plus.
Ouais.
Une bagnole qui est vraiment, vraiment impressionnante. Honnêtement, jamais j'aurais pu m'imaginer qu'on créerait une voiture aussi sportive que ça dans la gamme Camry. Ça implique évidemment des contraintes parce que la suspension est très ferme, donc ce n'est pas une voiture confortable. Et s'il y a un bémol sur cette auto-là, hormis le fait évidemment que c'est une traction...
Oui, l'effet de coupe, ça fait sentir ou c'est pas si pire?
Okay. Honnêtement, l'effet de coupe, c'est pas si mal. On pourrait s'attendre à pire. Mais évidemment, c'est une traction, donc on atteint rapidement les limites de l'adhérence si on pousse ça à fond dès le départ, mais les sièges sont totalement mal adaptés. Donc, c'est des sièges qui ressemblent à ceux d'une Camry régulière, pas beaucoup de support, une assise qui est très courte. J'ai pas réussi à me trouver une position de conduite qui était parfaitement confortable. Mais en revanche, la voiture a un comportement routier drastiquement sportif. Donc, on sent que
c'est franchement étonnant.
Les basses avisatrices sont grosses, la suspension est très ferme, la voiture est très, très bien ancrée au sol, super tenue de route. La sonorité mécanique, c'est vraiment, on est limite exotique. Là. C'est vraiment
wow.
Surprenant. En même temps, où se situe la part de marché d'une version comme celle-là? Parce que c'est quand
niché,
même pas donné.
Là.
C'est très, très, très niché. Mais pour ceux qui veulent s'acheter une voiture de performance ultra fiable, se distinguer dans le paysage automobile avec une bagnole qui a quand même un certain look, parce que faut le dire...
Oui, il y a un béquet qui est quand même...
Il y a un gros aileron à l'arrière, la jupe en avant.
C'est pas la Civic Type R, mais pas loin. Là,
non, on n'est pas au niveau de la Civic Type R. C'est une voiture qui a quand même belle gueule.
Ouais.
Mais qui n'est pas très subtil dans son approche. Bref, c'est une bagnole qui vit sur du temps emprunté, probablement parce que cette voiture-là ne perdurera pas dans le temps très longtemps. Mais j'ai été bien content de conduire ça puis de découvrir une autre facette de la Toyota Camry parce que on sait que la Camry, c'est une voiture qu'on associe souvent à la version hybride.
Oui, à une voiture taxi, finalement.
À une voiture taxi, à une voiture indestructible,
oui.
Super fiable, etc. Mais là,
une petite vocation sportive. Qui se développe.
Et beaucoup plus sérieuse que ce à quoi je me serais attendu. Alors, ceux qui veulent acheter une voiture de performance sans nécessairement délaisser, d'une part, la fiabilité et sans nécessairement aller dans une voiture de 50 000, 60 000 $ ça peut être une avenue quand même assez intéressante, mais vous n'aurez pas droit, évidemment, à la traction intégrale, malheureusement.